On m'a demandé de faire la présentation, non en anglais, alors je vais faire un effort pour essayer de vous la faire en belge, car comme mon nom l'indique, je suis d'origine belge, et hier soir j'étais dans un café parisien, et puis après le cinquième Cointreau, il y a la serveuse qui m'a dit, il faudrait quand même faire un peu attention, parce que songez que chaque année, il y a 30 000 Français qui meurent d'alcoolisme. Je dis, mais j'ai pas de problème, moi je suis belge. Donc c'est la seule blague belge que je vais faire durant ma présentation. Pour vous dire que je travaille à The International Research Institute for Climate and Society. Ça fait partie de l'Université de la Columbia. On est à New York. Là-bas. Et notre mission, c'est de comprendre et d'essayer d'analyser le climat et comment on peut utiliser cette information pour des applications, que ce soit en agriculture, soins de santé, la santé humaine, la gestion des criquets, la gestion des inondations. Et donc, on travaille pour essayer de comprendre, d'anticiper le climat et comment cette information peut être utile pour la société humaine et pour l'environnement. Donc, on travaille sur les impacts du climat, qui sont les sécheresses, les ouragans, les inondations. Je travaille directement avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, the International Federation for Red Crescent and Red Cross, pour prévoir à l'espace de 6 jours en avance sur l'échelle globale où sont les inondations. Comme ça, la Croix-Rouge, basée à Genève, peut gérer son personnel ainsi que les fonds pour les envoyer dans les régions qui auraient un risque d'inondation. Je travaille aussi sur les feux en Indonésie, car c'est relié avec le climat. On sait que dans la saison sèche de juillet, août, septembre, octobre, quand il pleut moins que d'habitude, on a plus de feux. Et comme on est capable de prévenir ou prévoir 6 mois à l'avance la précipitation, on est capable de prévoir le risque de feu en Indonésie. Je travaille aussi avec la FAO pour faire la gestion des criquets pèlerins. On sait que les criquets se développent dans le désert, depuis la Mauritanie jusqu'à l'Inde. Et en utilisant les images satellites, j'arrive à montrer là où il pleut, là où il y a de la végétation, et d'envoyer les contrôles directement dans les zones infestées du criquet pèlerin. Et finalement, je travaille avec Madeleine Thompson sur les épidémies. Et ce sera le sujet de ma présentation. En fait, d'abord, on travaille surtout en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Donc le sujet de ma présentation, c'est changement climatique et maladies à transmission vectorielle. Que peut-on faire? Alors, chaque fois que je vais dans les pays, je travaille avec l'Organisation mondiale de la santé, et qu'ils me demandent comment peut-on s'adapter au changement climatique au niveau transmission vectorielle. Alors la première chose qu'on doit faire, c'est de comprendre la dynamique du climat, la relation avec la maladie, si elle existe, quand et où le climat est prévisible, est-ce qu'on peut faire des systèmes d'alerte précoce, la nature de la variabilité, et la variabilité à différentes échelles de temps. Et cette échelle de temps est très importante, parce que quand on pense au climat, on dit climat, changement climatique, bien souvent, les gens ont un concept que le climat est stable. Mais en fait, ce qu'on montre dans chaque pays quand on va, on regarde d'abord aux données historiques de climat. Par exemple, ici, ce sont 4 graphes. Le premier, c'est une série temporelle de 100 années sur des précipitations à partir d'une observation. Et ici, j'ai mis des anomalies, c'est-à-dire que j'enlève la moyenne annuelle pour montrer que lorsqu'on a des anomalies positives, on a plus de pluie que d'habitude, des anomalies négatives, moins de pluie que d'habitude. Donc le premier graphe, c'est simplement des anomalies. Alors, avec les utilisateurs, on fait cette analyse de série temporelle de long-term trend, sur la tendance à long terme, sur 100 ans, et on regarde s'il y a une augmentation ou une diminution des précipitations. La troisième graphe est très important parce qu'on montre quelle est la variabilité au niveau décennal, tous les 10 ans. Et donc on se rend compte que le climat dans le passé a changé, qu'il est en train de changer et qu'il continue à changer. Et donc on a des phénomènes de sécheresse, par exemple en 1930-1940, et à partir de 2000. Et c'est un cas de figure dans l'Afrique de l'Est. En Éthiopie, on se rend compte que depuis 10 ans, on a une sécheresse. Donc on est dans un cycle de sécheresse qu'on ne comprend pas très bien encore. On pense que c'est lié aux températures de surface des océans, mais on est encore en train de faire de la recherche sur cet aspect. Ma collègue Alessandra Giannini avait fait un papier en 2003 dans Science montrant que la sécheresse dans le Sahel avait été due à aux températures de surface des océans, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. Et donc, on essaie de comprendre ce phénomène. Et finalement, alors on regarde à la variabilité interannuelle, comment le climat change d'année en année. Et c'est très important, par exemple, pour le ministère de la Santé, parce qu'en Éthiopie, on leur dit, vous devez vous adapter au changement climatique. Mais quelle est l'adaptation quand on est dans une période de sécheresse? Les paysans, les fermiers, construisent des barrages. Donc il y a de l'irrigation. Avec cette irrigation, on a plus de malaria. Tandis que là, dans les endroits où on n'a pas d'irrigation, vu qu'on est en période de sécheresse, le moustique est moins actif et on a moins de malaria. Donc ici, on a deux composantes dans cet aspect de cycle de 10 années. Donc chaque fois que je vais dans un pays, la première des choses, c'est de comprendre quel est le climat dans le passé, quel est le climat actuel. Et les projections dans l'avenir, ce qu'on utilise, ce sont des projections de 3 à 6 mois que l'IRI produit. C'est vraiment le pain quotidien de l'IRI, c'est de fournir ces prévisions climatiques de 3 à 6 mois. 10 ans, 20 ans, 100 ans, on ne sait pas trop. Par exemple, en Afrique de l'Est, les modèles, il y a 50% des modèles qui disent qu'il va faire plus humide, 50% des modèles qui vont dire qu'il va faire plus sec. Avec une information pareille, le ministère de la Santé ne peut pas prendre de décision. Donc ce qu'on fait ici, c'est de donner cette information de 3 à 6 mois pour voir là où est-ce qu'il fera plus chaud, plus sec ou plus humide. Alors, il faut comprendre comment le climat influence la maladie. Faire d'abord les analyses, quelle est cette relation? Et voici un exemple de travail que j'ai fait en Érythrée avec le ministère de la Santé. J'avais accès à 10 années de paludisme au niveau des districts et j'ai fait une carte spatio-temporelle de la distribution du paludisme. Ici, les couleurs jaune et rouge montrent qu'il y a beaucoup de malaria avec un pic en septembre-octobre. Dans les zones vertes, on a très peu de malaria. L'incidence est faible, et il n'y a pas vraiment de pic, sauf au mois de janvier et octobre. Finalement, sur la côte est, on a un pic de malaria au mois de janvier. Et quand on regarde quand on lit cette information avec le climat, on se rend compte qu'il y a la mousson qui vient en juin, juillet, août dans le sud-ouest, et la malaria se développe en septembre, octobre. Il y a une barrière de montagne dans les zones vertes, là, c'est la température qui joue un rôle prédominant. Et sur la côte est, là où il fait sec, il y a parfois des phénomènes au mois de décembre, de pluie qui viennent, et la malaria se développe au mois de janvier. Donc à ce moment-là, on arrive à faire la liaison entre le climat et le paludisme. Donc à partir de ça, on travaille avec les ministères de la Santé qui nous demandent, premièrement, des cartes de transmission basées sur le climat. Ils veulent savoir quand et où il y a un risque de transmission de la malaria. Après, ils veulent avoir un système d'alerte précoce, sachant lorsqu'on a plus de pluie que d'habitude, si on aura plus de malaria, s'il fait plus chaud que d'habitude, par exemple en zone d'altitude, est-ce qu'on aura plus de malaria? Et finalement, avec les contrôles qui sont mis en place, et pour le moment, dans toute l'Afrique de l'Est, il y a l'initiative du President's Malaria Initiative, il y a Bill Gates, il y a l'USAID qui donne beaucoup de matériel, des bed nets, donc des moustiquaires, des contrôles des moustiques à l'échelle nationale. Et quel est l'impact de ces activités? Alors, pour les cartes de transmission, on utilise la climatologie à partir des précipitations, de la température et de l'humidité relative, avec des seuils qui nous permettent de dire où et quand on a une transmission de la malaria. Donc la carte sur la gauche, c'est la carte de la Tanzanie, avec les couleurs qui montrent combien de mois on a une transmission du paludisme. Et vous pouvez cliquer en n'importe quel point de la carte. Ici, j'ai cliqué dans un district dans la zone verte. Et ça me donne les précipitations lorsqu'il y a plus de 80 mm de pluie, lorsque la température est entre 18 et 32 degrés, et lorsque le taux d'humidité est supérieur à 60%. Quand a-t-on ces conditions? Par exemple, dans cette région-là, en mai, juin, juillet, août, il ne pleut pas assez. Donc il n'y a pas de transmission de malaria parce qu'il n'y a pas assez de précipitations. La température n'est pas un facteur limitant. On a toujours 100% de probabilité d'être entre 18 et 32 degrés. Et puis, l'humidité relative est un problème. Quand on combine les trois, on a cette carte, ce graphe de risque de transmission de la malaria. Et donc là, le ministère de la Santé sait exactement à n'importe quel point où on a un risque de transmission de la malaria. Après ça, on construit des systèmes d'alerte. et c'est basé sur le framework, donc le système de l'Organisation mondiale de la santé. Dans les pays, c'est composé de 4 éléments. Dans les pays, donc, chaque ministère doit suivre les cas de paludisme à partir des hôpitaux et les recenser. Donc, ici, c'est un exemple de 4 années. Dans le graphe de bas, la première année, il n'y a pas eu beaucoup de paludisme. Et puis, jusqu'à la quatrième année, il y a une épidémie. S'il y a une relation avec le climat, on essaie de voir comment peut-être la précipitation ou la température joue sur cette épidémie. Et donc, le rainfall monitoring, c'est en surveillant les conditions de précipitation, on peut prévoir 2 mois à l'avance le risque d'épidémie. Le seasonal climate forecast, ça c'est le produit de l'IRI, ça nous permet d'avoir une idée s'il va pleuvoir plus ou moins que d'habitude, avec 6 mois d'avance. La première fois que j'ai présenté ce système au ministère de la Santé en Érythrée, à Asmara, le directeur m'a dit « je ne peux pas utiliser la prévision parce que si je prends une décision et que je me trompe, je vais être mis à la porte ». Alors je dis « c'est vrai, ce que tu peux faire, c'est d'avoir une idée du risque et puis en suivant la précipitation, tu sais qu'un mois ou 2 mois plus tard, dans le district, tu sauras s'il y aura une épidémie ou pas ». Ça, c'était en 2004. En 2006, il entend parler de El Niño qui arrive. Il dit « tiens, en 97, il y avait un El Niño et j'ai eu une épidémie de malaria parce qu'il avait beaucoup plu. » Donc il m'a envoyé un email, il m'a dit « est-ce que tu penses qu'il y aura une relation avec la précipitation ?» On a regardé avec nos collègues climatologues et en fait, non. Les conditions n'étaient pas les mêmes qu'en 97. Donc on a continué à regarder la précipitation et en fait, il n'a pas plu plus que d'habitude. On n'a pas eu d'épidémie de paludisme. Et finalement, l'aspect le plus important, le plus compliqué, la vulnérabilité. Et là, c'est là où on a tout. C'est là où on a les résistances des moustiques, l'écologie, les mouvements de population, l'immunité, les contrôles. Est-ce qu'il y a eu des contrôles qui ont été efficaces? Est-ce que les gens utilisent les moustiquaires pour se protéger ou pour faire la pêche aux poissons? Ce sont toutes ces informations qu'on ne connaît pas. Seuls les ministères ou les gens sur place ont accès à cette information. Donc nous, ce qu'on fournit principalement, c'est la saisonnalité, le climate forecast et le monitoring. Et donc, on donne ça via notre page web. On a 4 tables. Donc, il y a la vulnérabilité, la seasonal forecast. Ceci, c'est le monitoring, the environment. Et puis, après, on a les observations de malaria, là où on a accès aux données. Et donc, dans la surveillance de l'environnement, je donne l'information au niveau de la précipitation, au niveau de la température, la végétation, qui joue parfois un rôle, et la présence de points d'eau. Et tout ça, c'est mis en ligne, en temps réel, à partir des images satellites. Et quand je montre ce dessin à Charles Bolden, qui est l'administrateur de la NASA, qui est astronaute, qui a fait 2 missions dans le Shuttle, il me dit, qu'est-ce que c'est le chikungunya? C'est le nouveau nom d'ascenseur de la NASA? Je dis, non, pas du tout. Et donc, petit à petit, en parlant avec Charles Bolden et les gens de la NASA, on commence à avoir ce dialogue où on comprend comment les images de satellites de la NASA sont utilisées pour faire le suivi des précipitations, température, végétation et water bodies. Alors, précipitation, c'est au niveau d'Afrique, c'est à 11 km de résolution spatiale. Donc ce sont les images que je fournis en temps réel sur le site web. On peut zoomer sur chaque région. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on montre que c'est la dernière décade de septembre 2014. Donc il pleut depuis l'Érythrée, l'Éthiopie, jusqu'au Sénégal. C'est normal, c'est la saison des pluies. Ce qui est intéressant pour le ministère de la Santé, c'est de savoir, est-ce qu'il peut plus que d'habitude ou moins que d'habitude? Donc on a un système sur Internet qu'on peut cliquer sur n'importe quel point et extraire une information automatiquement sur les séries temporelles tous les 10 jours, et on montre sur le graphe B, en rouge, là où il y a moins de pluie que d'habitude, et en bleu, là où il y a plus de pluie que d'habitude. Et par exemple, ici, c'est en Somalie, j'ai cliqué sur un pixel en Somalie, il y a eu plus de pluie que d'habitude jusqu'en 2012. Le graphe C montre la saisonnalité. Il y a 2 saisons des pluies en Somalie. Donc là, il y a risque d'avoir 2 transmissions de paludisme. Et finalement, le cumul de l'année montre qu'on est en surplus de précipitations. Donc c'est très bien pour l'agriculture, mais c'est un problème pour le paludisme. Au niveau des températures, c'est très important, les changements climatiques au niveau des highlands, au niveau des montagnes dans l'Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Ici, c'est un exemple d'une image satellite, MODIS, à 1 km de résolution spatiale sur la température. Et j'ai mis, c'est dans la vallée du Rift. Alors, la vallée du Rift, si ça fonctionne, est sur le côté ouest. Et nous avons une chaîne de montagnes sur le côté est. En bleu, ce sont des températures inférieures à 18 degrés. Donc, on ne devrait pas avoir de transmission de paludisme. J'ai mis les courbes de niveau parce que, en Éthiopie, le ministère de la Santé dit qu'au-dessus de 2000 mètres, il n'y a pas de paludisme. Donc, il n'y a pas de contrôle de la malaria. Mais en montrant ces images, je dis que parfois, en fonction des changements, que ce soit El Niño ou La Niña, on voit que les températures augmentent en altitude et atteignent des valeurs au-dessus de 18 degrés, même au-dessus de 2000 mètres. Et en fonction de l'orientation de la montagne, il y a des endroits, si vous vous trouvez sur l'ouest, qui sont plus froids que sur l'est. Donc ici, je remontre un peu l'animation. Ici, ça fonctionne. Oui, voilà. Donc ici, il fait beaucoup plus froid, à une altitude plus basse que de l'autre côté de la ville. Si votre village est situé ici, vous n'avez pas de malaria. Par contre, s'il est là, là, vous avez de la malaria. Donc cette notion d'arrêter les traitements, les contrôles au niveau de 2000 mètres, maintenant le ministère de la Santé en Éthiopie a changé ses options et regarde aux températures à partir des images MODIS. Les points d'eau, ici c'est une image Landsat, c'est à 30 mètres de résolution spatiale, et je vais vous montrer, en zoomant, c'est encore la vallée du Rift, donc en rose ici, c'est la vallée qui est très sèche. Et puis les montagnes, en vert, ici, ici. Le blanc, ce sont des nuages. Donc ce sont les zones montagneuses. Et les points, ce sont des villages dans lesquels on a de l'information sur le paludisme. Les points verts montrent qu'il y a très peu de paludisme. Les points jaunes, c'est moyen. Et les points rouges, là, il y a beaucoup de paludisme. Alors, je vais zoomer dans cette région-ci, parce que donc, là, tout est sec. Mais vous voyez les points verts, ici, c'est de l'irrigation. C'est là où les fermiers ont commencé à construire des barrages, mettre des points d'eau. Et vous voyez bien les canaux en bleu ici. Ce sont les canaux d'irrigation et puis les petits points d'eau là-bas. Et il y a deux villages ici en orange et en rouge. Ça, ils ont une augmentation du paludisme à cause de l'irrigation. Et on a montré qu'avec un papier qu'on a fait avec Mercedes Pascal et Andrea Baeza, que dans le Gujarat, en Inde, chaque fois qu'il y a une nouvelle zone d'irrigation, ça prend à peu près 10 ans à la population de s'adapter au paludisme, de mettre en place des contrôles et de s'adapter afin d'éliminer le paludisme. Donc les irrigations, les points d'irrigation où ils sont assez âgés, on n'a plus de paludisme parce que la population est habituée et fait des contrôles à ce niveau-là. Évaluation des contrôles. Donc on travaille avec l'USAID, avec le President's Malaria Initiative, pour connaître quel est l'impact des contrôles. Si vraiment le paludisme a diminué, si c'est dû au climat ou si c'est dû vraiment à des contrôles effectifs. Et ce qu'on arrive à faire pour chaque pays, pour chaque district, c'est donner des séries temporelles de précipitations au moment où les contrôles ont commencé. Par exemple, ici, c'est au Niger. Les contrôles ont commencé en 2005. Donc la baseline, c'est en 2005, ici. Et on voit qu'il a fait sec, et puis plus humide, puis sec. Et puis maintenant, on est encore dans des zones un plus sèche. Et donc, on s'est rendu compte que la malaria, surtout en Afrique de l'Est, a commencé à diminuer même avant le début des contrôles. Parce qu'effectivement, il y a une période sèche. Alors, dès qu'on a des endroits où on voit une augmentation de la malaria, malgré qu'il y a des contrôles, on essaie de comprendre si c'est relié à une augmentation de la température, surtout dans les montagnes, ou à de meilleures précipitations. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être qu'il y a comme des résistances du moustique aux insecticides, ou comme au Kenya, on commence à avoir des résistances à l'artémisine, le drug, c'est-à-dire le médicament, qui est le dernier rempart contre le paludisme. Donc on essaye de comprendre quel est l'impact des contrôles et l'impact du climat. Ok, donc finalement, alors je travaille aussi avec l'OMS et l'université de Nelson Mandela sur la trypanosomiase. Et il y a 2 mois, j'étais dans un village Maasai pour parler de la trypanosomiase. Et je travaille avec John Hargrove, ici, qui, dans les années 70, a fait cette étude sur la mouche tsetse et comment elle est attirée par le bétail. Donc la mouche tsetse a de grands yeux, mais elle ne voit pas grand-chose. Elle suit les phéromones émises par les animaux, et en particulier l'acétone. Et comme John Grove dit, grâce à vous, mesdames, il utilise de l'acétone, de nail polisher, pour attirer la mouche tsetse. Donc dans ce petit container là-bas, il met du nail polisher, c'est-à-dire du nettoyant pour ongles, pour attirer la mouche tsetse. Et la mouche tsetse ne voit pas les couleurs, par exemple le bleu. John m'a dit que c'était simplement parce que c'était le matériel qu'on avait à l'époque. Là. Donc maintenant, tous les pièges sont en bleu. Et donc la mouche va, est attirée, et John m'a dit que, ça fait déjà 40 ans qu'il travaille sur la trypano, il m'a dit qu'il a remarqué qu'il y a des années, il y a beaucoup de mouches, il y a des années, il y a moins de mouches. Il m'a dit, est-ce qu'il y a une relation avec le climat ? Et on est en train d'étudier cette relation. D'abord, au niveau des écosystèmes, des environnements, c'est une image haute résolution. Chaque point, c'est un arbre. Ici, la zone sombre, c'est une zone forestière. C'est là où on trouve la mouche tsetse, parce qu'elle a peur de sortir de son abri d'arbre. La ligne jaune, c'est le tracé que j'ai fait en voiture avec mon GPS. Et le point rouge, c'est là où j'ai pris la photo avec John qui expliquait comment il a fait créer ce piège. Donc maintenant, on est en train d'étudier comment on peut fournir cette information. Alors, au niveau de l'université, mais aussi au niveau des Maasai. Et là, c'est une photo que j'ai prise pendant le déjeuner. Les Maasai nous ont fait de la viande, de la viande, de la viande. Ça m'a pris 2 semaines pour mettre mon estomac en place. Mais si vous faites attention à la troisième personne à partir de la gauche, c'est le chef du village. Et pendant tout le déjeuner, il était sur son cellulaire, en train de gérer où se trouvent les pâturages, ses bétails, d'envoyer ses gars à gauche et à droite. J'ai dit, quoi ? On était à 2 heures de voiture d'Arusha, en plein bouche. Alors, comment maintenant on peut fournir cette information qui vient des satellites directement au chef du village avec son cell phone ? Alors, quand je suis revenu d'Arusha, je me dis, il faut qu'on mette ça sur un smartphone. Et maintenant, donc, tout ce qu'on a comme information à partir de la data library, l'IRI, MapRoom, vous pouvez accéder sur leur smartphone. Vendredi dernier, j'étais aux Nations Unies devant les ambassadeurs de l'Union africaine. Je leur ai montré ça. Je vous jure, tout le monde a sorti son smartphone et ils ont été sur l'Afrique pour voir quelles étaient les conditions dans leur village. Donc, c'est phénoménal. Maintenant, je vais retourner là-bas et je vais essayer de fournir cette information au chef du village là-bas pour qu'il ait accès où se trouvent les pâturages, quelles sont les conditions de température et de précipitation. Brièvement, on travaille aussi sur la leishmaniasis dans le sud du Soudan. Alors, on s'est rendu compte que la mouche qui se reproduit avril, mai, juin dans les crevasses des vertisols, s'est rendu compte qu'en faisant des études sur la végétation et surtout sur l'inondation à partir des images satellites, on voit que quand il y a des inondations dans le sud du Soudan à partir d'avril, la mouche ne se reproduit plus et on n'a pas de transmission de la leishmaniasis en septembre, octobre, novembre. Par contre, s'il y a un délai dans les inondations, à ce moment-là, on a un pic de leishmaniasis en septembre, octobre, novembre. Donc on utilise maintenant les informations sur les inondations pour prévoir la leishmaniasis. Et puis, finalement, on travaille aussi avec la méningite. On travaille avec l'OMS pour voir comment on peut faire la distribution des vaccins qui ne sont pas suffisants dans les zones du Sahel, là où il y a la transmission de la méningite, et on utilise les images satellites pour faire le suivi des poussières ainsi que des modèles. Et donc avec mon collègue Carlos Perez, on a fait un papier sur les modèles, et moi j'ai utilisé les images satellites pour faire le suivi des poussières. Voilà, c'est un peu le travail qu'on fait. Et Aliri, merci pour votre attention.
Bravo, moi c'était impressionné. J'ai une question sur, sur aussi les land cover, les land use. Parce qu'en fait, on a des images plutôt sur... pardon, on voit l'importance des périmètres irrigués. Mais est-ce qu'en fait, à l'IRI, maintenant, vous allez de plus en plus aussi prendre l'évolution des land cover et des land use directement, s'ils commencent à être disponibles ou à se construire, quoi?
Il y a pas mal de land cover qui sont disponibles, hein, que ce soit de l'Europe avec le Joint Research Center, la NASA, Goddard Space Flight Center, ils font ça, l'Université de Maryland. Ça donne une bonne idée. C'est généralement à 1 km de résolution spatiale. Avec l'ANSAT, on le fait aussi, 30 mètres. Personnellement, je n'ai pas le temps de le faire. J'ai un étudiant qui travaille sur l'identification des cultures. Qui nous donne une idée, mais c'est pour un autre projet. Mais non, dans ce cas-là, j'utilise ce qui est fait par d'autres organisations.
Oui. Je ne connais pas trop les questions de climat en Afrique, mais j'étais étonnée des prévisions à Fiat, des prévisions à 6 mois.
Alors, elles sont fiables entre 0 et 100%. Ça dépend où. Je remonte, je vais vous montrer. En Indonésie, elles sont très fiables parce qu'il y a, une relation directe avec El Niño. Et donc, El Niño, c'est un phénomène qui est en plein développement. Je reviens. Voilà. Donc ça, c'était fait au mois de mai pour juin, juillet, août. Et vous voyez, en Indonésie, donc on a des probabilité de 50 à 60% d'être en dessous de la normale. Là, on a un skill, donc une accuracy, une précision très élevée, parce qu'il y a un rapport très direct avec El Niño. De même au Brésil et en Uruguay et en Argentine. Ça marche très, très bien. On a de très bons skills. Vous voyez, pour l'Europe, l'Asie, même les États-Unis, on n'a rien. Là, on ne sait pas faire de bonnes prévisions. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a des zones où ça marche très, très bien et des zones où on ne sait rien dire.
Oui.
Oui. Là aussi. Ouais. Et pour le moment, donc, au mois d'avril, il y avait un signal de Niño qui commençait. Alors, tous les climatologues, ils étaient excités. Et puis, boum, plus rien. Ouais. Maintenant, on attend. On est en attente pour voir si ça va revenir ou pas. Si ça revient, bon, il y aura... de la Rift en Afrique de l'Est, là-bas, de très bonnes récoltes en Uruguay. Et de fait, il y a un gars... voilà, là aussi. Il faut que le bétail soit renouvelé, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu une immunité au niveau de la... Mais ce sont des forecasts qui sont utiles jusqu'à un certain point.
Oui, c'est... C'était très impressionnant votre présentation. Vous avez juste évoqué le chikungunya sur une diapo un peu amusante. Il y a actuellement en France, mais dans les DOM, il y a une explosion d'une épidémie de chikungunya et de dengue, en particulier aux Antilles et puis en Guyane, avec des difficultés de gestion tout à fait importantes sur le terrain. Est-ce que, donc, et puis il y en a aussi dans la zone pacifique, alors est-ce que vous avez étudié à l'ISI les corrélations avec donc, les changements climatiques, avec la température et l'humidité pour la propagation à travers le moustique tigre? Et comment est-ce que vous faites des projections sur ces épidémies et leur évolution?
Donc le chikungunya, non, on n'a pas travaillé, on n'a pas accès aux données de base de chikungunya, donc on n'a pas travaillé là-dessus. Alors, donc on a fait le PALU parce qu'on a directement une relation avec le ministère de la Santé qui nous donne accès à ces données. Donc je ne peux pas dire grand-chose sur le chikungunya. Je connais pas. Et la dengue aussi, là on ne connaît pas trop quoi. Bon, la dengue, c'est toujours aussi compliqué parce que c'est vraiment dans les zones urbaines. Et donc là, c'est tout un phénomène un peu plus compliqué. Oui. Donc, oui.
Juste un petit commentaire sur la partie. Donc, tu mentionnais effectivement que la partie projection des précipitations dans la zone tropicale africaine sont pas. Il y a beaucoup d'incertitudes. Hein. Effectivement, ça fait partie des zones où on a des difficultés. Je voudrais pas que tout le monde reste avec la. Enfin, que ceux qui ne sont pas climatologues aient l'impression que du coup, il y a aucun endroit où on peut dire quelque chose. Il y a quand même d'abord une plus grande fiabilité sur la température. Et sur les précipitations, il y a d'autres endroits comme l'assèchement de la Méditerranée ou l'augmentation des pluies dans les hautes latitudes où là, il y a plus de certitude que ce que l'on arrive à montrer en Afrique. Voilà, c'était juste un complément. Par contre, les prévisions saisonnières sont beaucoup plus difficiles dans les moyennes latitudes. Donc, on ne gagne pas partout. On n'a pas toujours le lot gagnant. Sur la partie Afrique, est-ce que je suis pas sûre, enfin, même si on arrivait à mieux prévoir par rapport au futur, je ne suis pas sûre que les gens soient encore très prêts à regarder à une échelle de temps un peu plus longue. Je ne sais pas comment c'est ressenti. C'est même déjà probablement difficile déjà de regarder à l'échelle saisonnière. Je ne suis pas encore sûre que les gens soient prêts.
Non, effectivement, ils ne sont pas prêts du tout. C'est-à-dire que ça donne une idée, mais ils ne peuvent pas prendre de risques. Voilà. Ce qui est vraiment important, c'est le suivi des conditions environnementales en temps réel, avec les images satellites. Ça, ils le font, ils ont accès à ces données. Ils me demandent aussi des conseils, voir, tiens, dans cette zone, il y a plus, est-ce que tu peux voir un peu les mares, si elles se développent ou pas. Donc, pour le moment, c'est vraiment un suivi en temps réel qui donne quand même 1 à 2 mois de forecast, de prévision à l'avance, de savoir où il y a des risques. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est dans les pays comme le Kenya, la Tanzanie, où il y a beaucoup de contrôles à partir des moustiquaires, à partir des médicaments aussi. Et par exemple, dès que vous avez une fièvre, vous allez dans un hôpital, on vous donne tout de suite l'artémisine. Et ça, c'est dangereux parce que ça crée des résistances. Donc, on dit d'abord, il faut faire un contrôle de vérifier si c'est vraiment la palue qu'on a. Alors, il va y avoir des résistances qui vont se développer. Et il va y avoir aussi, au niveau des donateurs, que ce soit Bill Gates, PMI, USAID, il va y avoir une fatigue. Un jour, ils vont commencer à diminuer les fonds pour la lutte contre le palud. Et c'est à ce moment-là que si les conditions environnementales, les pluies reviennent, et c'est bien possible, qu'on va avoir une recrudescence du paludisme. Et ça, ça va être un peu dangereux. Parce qu'en plus, mais la population n'est pas vraiment immune contre le paludisme, à force d'avoir donné de l'artémisine. Donc il y a un risque là, à ce niveau-là. Et nous, on essaye de voir, écoutez, de donner cette information de Early Warning System pour être sûr que quand même les contrôles vont diminuer, le ministère de la Santé est en mesure de réagir contre des augmentations de paludisme.
Merci.
Un dernier commentaire par rapport au lag qui est de 1 ou 2 mois qu'il y a entre le pic des pluies en général, le pic d'incidence qu'on voit en Afrique de l'Est, qu'on voit aussi en Afrique de l'Ouest, au Niger, par exemple. C'est pas forcément le cas pour l'Afrique du Sud, où c'est une évolution quasiment synchrone. Il y a quasiment ce qui se passe en général. En général, les gens assument plus une influence de la température sur ces zones-là. Il y a aussi tout le problème des migrations des pays pardon. Excusez-moi. Ah, ok. Il y a aussi une migration des pays autour hein, qui ramène le parasite, toujours dans le nord, dans l'Impopo, et aussi dans les parcs. Non, juste pour s'il y a un commentaire là-dessus. Parce que cette espèce de lag, on sert de cette entropie entre, disons, si on a une espèce de skill du modèle de prévision saisonnière et qu'on arrive à prévoir justement une espèce de pic de malaria pour la saison qui suit, ça va avoir une image différente en fonction de la région.
Exact.
Ça va être vrai pour l'Afrique de l'Est-l'Ouest, le lag, mais pour l'Afrique du Sud, c'est différent.
C'est pour ça que chaque fois qu'on va dans un nouveau pays, il faut recommencer l'étude et savoir exactement quelle est la relation entre le palud. En Centrafrique, on a vécu longtemps là-bas, il fallait aller à Bangui pour avoir le palud. Et Anne Gwenel, qui était ici, elle était en Centrafrique, chaque fois qu'elle allait à Bangui, bang, le palud. Parce qu'à Bangui, il y a toujours les conditions idéales pour la transmission du palud. Si on va vers le nord, non, c'est tout à fait différent. Ça marche différemment. Donc il faut toujours se mettre dans le contexte de la localisation et temporel aussi.